Salut, c'est Tony Oka, vous écoutez Pop Pop Pop. Pop Pop Pop, c'est parti.
Pop-Popienne, Pop-Popien et tous les autres aussi, bonjour. Puisque nous allons parler aujourd'hui de Mytho, l'excellente série diffusée sur Arte, qui peut me garantir que nos deux invités, Anne Berest et Fabrice Gobert, co-auteurs de la dite série, ne sont pas eux-mêmes de gros mythos revendiquant la paternité de Mytho, alors que si ça se trouve, ma première est experte comptable chez Groupama et mon second, pilote en chef du remorqueur pousseur de la brigade fluviale de Paris. On va le vérifier dans quelques instants, mais le fait est que les mythos, ce n'est pas ce qui manque d'une manière générale, et plus particulièrement dans notre métier où beaucoup jonglent entre info et divertissement sans avoir pour autant fait l'école du cirque audiovisuel. Oui, tout comme nos placards sont pleins de mythes, ceux de notre profession débordent de mythos, d'imposteurs et d'individus sous-qualifiés et surpayés, même si je me dois de préciser qu'ici à France Inter, c'est exactement le contraire, en tous les cas dans cette émission. Enfin bon, des mythos, en veux-tu, en voilà, et c'est pourquoi tous nous avons éprouvé en regardant Mytho, la série, un vertigineux sentiment de mise en abîme. Et quand j'en ai fait la réflexion à Charline Roux, ma fidèle partenaire, elle m'a répondu avec ce sourire énigmatique et si délicieusement picard, qui est un peu sa marque de fabrique, Mytho. Bref, nous avons du grain à moudre aujourd'hui. Anne Berest et Fabrice Gobert sont les invités de Pop Pop Pop.
France Inter. Pop Pop Pop. Antoine de Paule.
Bonjour Anne Berest.
Bonjour.
Vous n'êtes pas experte comptable chez Groupama.
Non, mais j'ai rencontré beaucoup d'assureurs pour écrire Mytho. C'est
je
vrai.
Je l'espère. Bonjour Fabrice Gobert.
Bonjour.
Vous n'êtes pas non plus pilote en chef du remorqueur pousseur de la brigade fluviale de Paris.
Non, mais ça pourrait être intéressant. Mais...
Bien. À mes côtés, celle qui ne valide pas l'expression du grain à moudre. Bonjour Charline Roux.
Non, on n'est pas obligé de la ramener celle-là.
Bonjour Charline Roux. Au menu également de Pop Pop Pop, on continue cette spéciale Mytho avec notre chroniqueur Ronan Crowe qui viendra nous parler de mensonges dans la pop culture, ce sera en fin d'émission. Mais avant ça, Anne Berest et Fabrice Gobert, ici, il existe une question. Une question que je pose chaque jour en me faisant passer pour la voix française de Rocky. Et cette question, c'est...
Pour vous, c'est quoi la pop culture?
Alors oui, je sais, c'est bluffant. Mais attendez, avant de répondre... Pour être totalement honnête, j'ai déjà eu des réponses anisées, bérestantes, fabriciennes, gobertatives et même mythonneuses. Et parmi mes préférées, il y a celle évidemment de Serge, le mytho.
C'est la culture de maintenant. Mm-hmm. Je trouve que c'est la culture du présent. Mm-hmm. La culture des gens, c'est spontané, c'est... s'il y a parfois de la vision, parfois c'est de la vision à court terme, à moyen terme, ça dépend. Mm-hmm. C'est des visions de la société, c'est tout ça en même temps.
Voilà pour Serge le mytho et pour vous, Anne Berest et Fabrice Gobert.
Bah moi, je dirais que quand j'étais adolescente, la pop culture, c'était justement ce qui était merveilleusement pas de la culture. Mmh. C'est-à-dire tout ce qui m'attirait, tout ce qui était joyeux, sulfureux, plaisant.
Tout ce qui n'était pas poussiéreux, académique et
exactement.
Un peu ennuyeux.
Exactement, et pas obligatoire.
Mmh.
Voilà.
D'accord. Et pour vous, Fabrice?
Eh ben, je dirais que c'était tout ce que tous les films, toutes les chansons que j'écoutais quand j'étais adolescent. Et que mes enfants, qui ont maintenant l'âge d'être adolescents, écoutent encore sans trouver que c'est ringard. Mmh. Et aiment écouter avec moi et qu'on écoute ensemble.
Un exemple?
Bah, David Bowie, Michael Jackson, je sais pas, Étienne Dao, Retour vers le futur. Tous ces...
Chantal Goya.
Moins. tous ces trucs qui étaient quand même vraiment bien foutus et qui passent les époques avec brio.
D'accord. Eh bien, la pop culture, on va en parler dans la suite de Pop Pop Pop, juste après la pop belge d'Angèle, avec son tout nouveau morceau Perdu, mis en ligne sur la chaîne YouTube Colors.
On perd de l'altitude, toi et moi. Loin de nous, ni l'un ni l'autre n'ira. On perd notre aptitude, celle qu'on avait à rester fiers, ni l'un ni l'autre ne l'a. On perd notre temps à se perdre tout le temps. Loin de nous, ni l'un ni l'autre n'ira. Perdu, perdu, perdu. Perdu, on s'en est fort, on se tue. Perdu, d'habitude, mais ces derniers mois, j'ai flanché loin de toi, loin de moi, sans prendre la mesure de ce qui m'arrivait. Et c'est arrivé sans le voir venir. Notoriété oblige, j'y prends bien du plaisir, même si j'y perds ma liberté. Vouloir trop réussir, la pression du succès, des gens, les autres, nous, qu'est-ce qu'on va devenir?
Perdu. Perdu, c'est le tout nouveau titre de la jeune Angèle, extrait de la réédition de Brol, ça veut dire bordel en belge, réédition qui a pour titre Brel, Brol, la suite. C'est belge. Et ça sort le 8 novembre. Vous écoutez Pop Pop Pop, l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon... Et nous sommes aujourd'hui en compagnie de deux mythos. Qui sont-ils? Que font-ils ici? Comment ont-ils réussi à passer le portique de sécurité? Sous quelle identité? Pourquoi sommes-nous tous parano depuis ce week-end? Beaucoup de questions, quelques réponses avec leur pop portrait. Alors votre pop portrait, bien sûr, c'est votre pop portrait, mais... Et c'est signé Charline Harar.
Aujourd'hui, deux invités à qui on ne peut demander de dire toute la vérité, rien que la vérité. D'abord parce qu'on n'est pas au tribunal, même si Antoine aime apporter des robes, comme vous pouvez le constater. Et aussi et surtout parce qu'ils sont tous les deux créateurs d'histoires et qu'on espère qu'elles ne sont pas complètement fondées. Par exemple, Anne Berest a écrit le roman « Recherche femme parfaite ». Or, on sait que cette dernière n'existe pas. Enfin, s'il vous plaît, si vous pouvez le confirmer. Fabrice Gobert a inventé les revenants. On sait que... Non, c'est pas vrai ça, non plus, s'il vous plaît, ça m'arrangerait. Certes, Anne a essayé de s'en approcher de la vérité en racontant Gabriele, son incroyable aïeul dont la vie pourrait être une pure fiction, mais non. Et Fabrice, lui, filme une vie de lycée bien flippante, ce qui n'est pas complètement faux, dans Simon Werner a disparu, puis dans Chaos, la destinée d'un odieux directeur des programmes télé qui va payer. Et ça, on sait que ça n'arrive jamais. Donc aujourd'hui dans Pop Pop Pop, personne n'est venu dire sa vérité. Parce que cette expression me donne envie de punir ceux qui l'emploient en leur lisant de longs passages de l'œuvre de Christine Angot tout en écoutant Trois Cafés Gourmands. Pas de vérité, et c'est tant mieux. Bref, une émission dans laquelle sont à l'honneur de géniaux mythos.
Mmh, vous êtes donc venu donner votre vérité, Anne.
Je déteste cette
Fabrice.
Expression.
Non, votre aussi. Pourquoi vous détestez ça?
Je trouve cette expression atroce. Ah, tout le monde l'emploie. D'accord. Je suis venu dire ma vérité, comme si c'était un truc un peu subjectif.
Oui, oui, puis c'est plus intéressant de dire des mensonges, je crois.
Ah,
plus créatif.
Nous y voilà, direct dans le vif du sujet. Très bien. Alors, Anne Berest, Fabrice Gobert, on va parler de Christine Angot et de Trois Cafés Gourmands, puisque c'est l'heure de votre pop liste. Nous vous avons demandé de choisir un livre, un film, une musique et une série culte. Pour le livre, Fabrice, c'est vous qui vous y collez. Vous avez choisi La Route de Cormac McCarthy, paru en 2006 aux États-Unis, prix Pulitzer en 2007. Charline Route. Vous adorez les éléphants, mais vous n'avez jamais été cornac. En revanche, vous pouvez nous dire deux mots de McCarthy?
Dans un monde post-apocalypse, un père et son fils errent sur ladite route, et si j'en dis plus, je pleure.
Bien. Eh bien, vous allez pleurer dans quelques instants, car Fabrice a accepté de nous en lire quelques lignes.
Autrefois, il y avait des truites de torrents dans les montagnes. On pouvait les voir immobiles, dressées dans le courant couleur d'ambre, où les bordures blanches de leurs nageoires ondulaient doucement au fil de l'eau. Elles avaient un parfum de mousse quand on les prenait dans la main. Lisses et musclées et élastiques. Sur leur dos, il y avait des dessins en pointillés qui étaient des cartes du monde en son devenir. Des cartes et des labyrinthes. D'une chose qu'on ne pourrait pas refaire, ni réparer. Dans les vals profonds qu'elles habitaient, toutes les choses étaient plus anciennes que l'homme et leur murmure était de mystère.
Merci Fabrice. Charline, vous êtes toujours sèche? Oui, ça va, on peut continuer. Pourquoi est-ce qu'il vous plaît tellement ce livre?
Enfin, déjà, il me plaît et c'est un peu douloureux, hein, c'est un plaisir. Moi, j'ai lu ça quand, au moment où c'est sorti et c'est rare qu'un roman puisse me mettre dans un tel état. J'étais effectivement...
Vous aussi, vous étiez en larmes.
Mm-hmm. Et oui, à chaudes larmes. Non, et c'est donc une aventure avant tout, puisque c'est un garçon et son père qui essayent de survivre dans un monde post-apocalyptique à la recherche de nourriture. Ils croisent des espèces de d'êtres mystérieux qui leur veulent du mal. Ils se cachent. C'est très effrayant. En fait, ça se lit un peu comme un thriller, mais un thriller extrêmement bien écrit. Et qui dit quelque chose sur le monde en déliquescence, avec ce père qui essaie toujours de rappeler à son fils que avant le monde était beaucoup plus beau, était beaucoup plus pur. Et c'est extrêmement bouleversant. Et je me souviens d'avoir, oui, je pense, éclaté en sanglots quand au détour d'un chemin, ils trouvent des provisions et qu'ils peuvent enfin faire un déjeuner et qu'ils sont tellement contents de pouvoir juste manger. Mmh. Enfin, non, c'est un très 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 livre, c'est un livre très puissant. Un peu sombre, hein, je suis désolé.
Oui, non, mais écoutez, on n'aime pas que la lumière ici. Et c'est un livre qui éclaire assez bien cet attrait que vous avez pour l'étrangeté inquiétante ou l'inquiétante étrangeté.
Oui, alors peut-être là particulièrement, c'est dans un registre un peu dystopique où on est dans un monde... moi, j'aime bien imaginer des choses étranges dans notre monde de tous les jours. C'est peut-être plus rassurant. Là, c'est vraiment un monde projeté. Enfin, on se projette dans un monde qui n'existe pas encore, heureusement. Et c'est quelque chose d'un peu effrayant quand on écoute les climatologues. Mais il y a moi, je préfère être dans un décalage un peu moins grand et être dans des... comme dans Mythos, c'est-à-dire dans des domaines pavillonnaire a priori neutre qu'on connaît, ordinaire, et puis les rendre un peu étranges, le mensonge transformant la vie des habitants de ce domaine pavillonnaire.
On va en parler de ce mytho. Alors, pour le livre, c'est donc La route de Cormac McCarthy, c'était votre choix. Maintenant, Anne Berest, votre choix de film à vous, c'est À bout de course. C'est un film réalisé par Sidney Lumet en 88. Charline, je savais qu'on pouvait être à bout de souffle, au bout du rouleau, à bout de nerfs, à bout d'habits, mais à bout de course, je ne connaissais pas. C'est la traduction de Running on Empty.
Oui, absolument, Antoine. Ah oui. Les parents de Danny, River Phoenix, Annie et Arthur Pop, de dangereux gauchistes, ont perpétré un attentat à la bombe contre une usine de napalm. Ils sont en cavale et Danny le vit moyennement bien jusqu'au jour où il rencontre leur nain.
20 years ago, his parents protested the Vietnam War. His whole life, he's been paying the price of their beliefs.
Look what we're doing to these kids. They've been running their whole lives like criminals.
You can't keep running away from something that you had nothing to do with. You deserve your own chance.
I'm not letting him go because it's not safe.
We have to let him go.
A story of love, loyalty, and letting go. Running on Empty. Directed by Sidney Lumet.
Running on Empty, enfin À bout de course en français, le choix d'Anne Berest, ce film de Sidney Lumet de 88. C'est un scénario qui a obtenu le Golden Globe, du meilleur scénario pour Naomi Fauner, c'était en 89. C'est quoi? C'est la scénariste qui s'affole devant ce travail?
Non, je dirais que c'est l'adolescente. C'est un film dont je parlais beaucoup à Fabrice pendant qu'on écrivait. Et parce que c'est en fait une famille ordinaire qui a des problèmes ordinaires, c'est-à-dire le père, la mère, le couple, comment continuer à se désirer après les années. Il y a cette histoire de frère, il y a River Phoenix qui tombe amoureux de la fille étrange et mystérieuse du lycée. Et au milieu de cette famille, c'est une famille ordinaire, mais qui est plongée dans un monde et un destin extraordinaire, parce que les parents sont des gauchistes qui ont participé à un attentat et qui sont recherchés par le FBI. Donc cette famille doit sans cesse changer de quartier. Cette famille a organisé tout un système entre eux de codes pour savoir quand le FBI arrive, etc. Et j'adore ça, l'ordinaire au milieu de l'extraordinaire. Mmh. C'est pour ça que j'en parlais beaucoup, beaucoup à Fabrice. Et puis moi, ça me renvoie à mon adolescence, mes parents très à gauche, voilà, toute cette culture-là qui me semblait très familière. Et je trouve que Sidney Lumet est un immense, immense réalisateur.
Vous êtes une femme de lettres, écrivain, scénariste. Quand on veut faire un film, on passe d'abord par la case de Sidney Lumet avec ce livre qui est considéré comme une bible qui s'appelle Making Movies.
Ouais, bien sûr. Moi, je suis auteur. Je pense pas que je réaliserai. Enfin, c'est pas du tout mon endroit. Mais c'est vrai que ça fait partie des bibles, évidemment. Mmh.
Bien, Fabrice Gobert, on revient à vous. Pour la série, vous avez choisi un monstre de la pop culture. Ce monstre, c'est 21 Jump Street, série créée par Stephen J. Cannell et Patrick Asberg et diffusée entre 87 et 91 sur Fox. Charline, rappelez-nous pourquoi on saute tellement dans cette rue et en particulier au 21.
Parce que de jeunes flics beaux comme des dieux s'infiltrent dans des lycées et des facs à problème et ce n'est même pas de la science-fiction.
Fabrice Gobert, vous ne choisissez pas cette série quand même pour Johnny Depp, si ?
Ah là là.
Si ?
Pour la musique.
Immense.
Pour la musique.
Non, mais pour tout, pour tout. Pour
Holly
Robinson, qui est très, très jolie, qui jouait un des personnages principaux féminins. Non, pour tout, moi, c'est une série que je regardais en rentrant de l'école et c'est comme ça aussi qu'on aime les séries. C'est moins le cas maintenant avec le binge watching, mais là, c'était tous les jours, il y avait un épisode et tous les jours, c'était un rendez-vous. Je pense que tous les scénarios se ressemblaient. C'était à peu près toujours la même histoire, mais ça n'avait aucune importance. Ce qu'on voulait, c'était retrouver les personnages qu'on aimait bien, cette musique. Et puis Johnny Depp, qui est quand même un acteur extraordinaire.
Ce qui était incroyable surtout, c'est que c'était censé être des jeunes flics undercover et ils avaient tous des physiques tellement particuliers que c'était pas crédible du tout en fait. Tout le monde
ils
les remarquait forcément.
Que
les autres élèves.
Aussi.
Oui, c'est ça. Rien ne collait.
Mais ça fonctionnait parce qu'on avait envie que ça fonctionne. Et puis le producteur le créateur de la série, c'est Stephen J. Cannell, qui est le type qui écrit sur sa machine à écrire à la fin du générique, qui avait aussi fait Riptide, l'agence touriste. Enfin, c'est une époque où le type était quand même très créatif. Et une fois, on a l'impression qu'une fois qu'il avait, il y avait le casting, il y avait les personnages, le reste, on pouvait faire 50, 60, 100 épisodes, il n'y avait pas de problème. Je pense qu'aujourd'hui, maintenant, on est un peu plus exigeant sur les scénarios, quand même.
Bien, Anne, terminons cette pop liste avec votre choix de chanson, votre chanson culte, et cette chanson, c'est celle-ci. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. Stand by me, c'est un morceau de Benny King. C'était en 61. C'est une chanson tellement culte qu'elle réapparaît dans votre série dans le deuxième épisode. When the night has come. Alors je résume. Non, avant de résumer, vous allez m'expliquer pourquoi cette chanson.
Une chanson culte pour deux raisons. D'abord, quand j'étais adolescente, comme beaucoup de frères et sœurs, tout ce qu'aimait ma grande sœur, j'adorais. Et ma grande sœur avait acheté la BO en CD, la BO de Good Morning Vietnam. Et on écoutait ça en boucle. Et il y avait aussi ce film, je ne sais pas si vous vous souvenez, ce film qui s'appelait Stand By Me, qui
avec
était
River
aussi
Phoenix.
Avec River Phoenix. Et dont j'avais la cassette VHS et que je regardais en boucle après l'école. Et c'est vrai que cette chanson m'a tellement marquée qu'en écrivant Mytho, elle m'est venue instinctivement comme une réminiscence. Et il y a eu ce phénomène que j'appelle le phénomène de la tarte tatin. C'est-à-dire quand on veut faire une chose, qu'on la rate, mais que ça devient un truc réussi.
On la retourne.
Exactement. Et donc, j'avais écrit cette scène où j'imaginais qu'il y avait Stand By Me et que les acteurs faisaient en playback Stand By Me. Et Fabrice n'a pas lu ça. Fabrice a lu que les acteurs chantaient Stand By Me. Et c'est là où c'est le travail de collaboration.
Et c'était beaucoup mieux que chante, c'était moins cher aussi.
Bien sûr,
l'original. C'était aussi pour faire des économies. Non, mais c'était. Il y avait un truc très beau là-dedans d'imaginer ça. Et après, on a eu un débat avec Anne pour savoir s'il fallait ou pas que les comédiens, enfin, que les personnages chantent. Parce que est-ce qu'on pouvait s'offrir cette liberté-là? Mais moi, ce que j'ai aimé dans l'écriture d'Anne, mais c'est tout à l'heure, on parlait du fait d'être scénariste ou réalisateur. Je pense qu'elle y a dans chaque scénariste, il doit y avoir un réalisateur qui imagine à quoi ça va ressembler concrètement. Et là, effectivement, il y avait régulièrement des choses qui étaient prêtes à tourner, quoi. Il y avait juste à mettre une caméra et à voir les personnages, les acteurs se mettre à chanter. Mais c'était très bizarre d'imaginer. Moi, je pense pas que j'aurais osé imaginer ça dans un scénario au milieu du deuxième épisode, d'avoir d'un seul coup tous les personnages qui se mettent à chanter, que ce soit en playback ou en vrai. C'était bizarre et je trouve que c'est toute la singularité. Moi, c'est ce qui m'a plu dans les scénarios à Dan, c'était cette idée qu'on pouvait faire à peu près tout ce qu'on voulait dans Mytho.
Bien, exactement comme dans cette émission. Vous allez voir. Alors, je résume La Route à bout de course, 21 Jump Street et Stand By Me. Je mets tout ça dans mon mixeur de pop culture et ça nous donne ça.
20 years ago, his parents protested the Vietnam War.
The night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see.
Autrefois, il y avait des truites de torrents dans les montagnes. On pouvait les voir immobiles, dressées dans le courant couleur d'ambre où les bordures blanches de leurs nageoires ondulaient doucement au fil de l'eau.
Ben voilà, ça nous fait plutôt un mash-up Fabrice Berest ou Anne Gobert.
Les deux, bien.
Tout ça est très cohérent, on est d'accord,
hein? Ouais, c'est vrai, ouais. C'est vrai.
Ça se tient.
Non, mais on s'entend bien. Sinon, si on n'avait pas d'imaginaire commun ou des ouais. cultures communes, on n'aurait pas réussi à écrire, enfin, à faire cette
à
série
faire
ensemble.
Ouais. Ouais.
Bon, série dont nous allons parler dans quelques instants, Fabrice Gobert et Anne Berest. Vous ne bougez pas. On va écouter Stay High. C'est un morceau signé Brittany Howard du groupe Alabama Shakes. Sans le groupe Alabama Shakes, car il sort son premier album solo.
Pop. Antoine de Caunes
et Charlie Naroux. qui est une femme d'ailleurs, comme Brittany Howard. Mytho, nom familier, masculin et féminin pour désigner une personne qui ne dit pas la vérité, un menteur, un mythomane, un affabulateur, peut-on lire dans le Wiktionnaire lorsqu'on tape le mot mytho. Mais quand on découvre la chaîne de conséquences du mensonge, l'effet domino, n'auriez-vous pas aimé l'appeler engrenage cette série ? Anne Berest, Fabrice Gobert.
Non mais ce qui est vrai, c'est que quand on travaille sur une série, c'est comme un jeu de domino. Mm-hmm. Il faut imaginer que chaque scène ou chaque action ou chaque chose en entraîne une autre, qui en entraîne une autre, qui en entraîne une autre. Donc c'est vrai que ça, c'est un engrenage et c'est ça qui est à la fois très difficile en écriture, mais qui pour le téléspectateur est prenant parce qu'on voilà, on veut savoir comment le domino va tomber sur la suivante. Mm-hmm.
Et c'était vraiment une référence qu'on avait, c'est tout à fait vrai, c'est un engrenage, et c'est comme ça qu'on a travaillé avec Marina Hans, qui joue donc Elvira. Et j'avais en référence l'adversaire d'Emmanuel Carrère, qui raconte l'histoire de Jean-Claude Roman, qui est ce type qui d'abord ment quand il a 20 ans en faisant croire qu'il a réussi son examen de médecine, et puis qui 25 ans plus tard se retrouve à assassiner toute sa famille parce qu'il a vécu dans un mensonge terrible qui a pris des proportions dingues. Il y a ça chez Elvira, c'est-à-dire qu'elle ment en disant qu'elle est malade alors que c'est pas vrai, et ça va prendre des proportions incroyables.
C'est votre première collaboration, comment est-ce que vos routes se sont croisées?
En fait, quand j'ai eu terminé d'écrire les 6 épisodes de la série, mon rêve, c'était de le proposer à Fabrice. Parce que sinon, Werner, parce que les revenants, etc. Donc, mon producteur, Bruno Naon, dit « Ok, on lui envoie ». Et puis, 2 jours après, je dis à Bruno « Il faut que je rencontre Fabrice avant qu'il lise, parce que il faut vraiment que je lui parle, que je lui dise pourquoi ça doit être lui, etc. » Ok, on fait un rendez-vous. Il s'était passé 2 jours. J'arrive, je m'étais préparée à pied, j'avais réfléchi à tous les arguments. Et quand j'arrive au café, je rencontre Fabrice, il me dit « Non, mais je vais le faire. » J'avais « Non, c'était pas ça qui était prévu. »
Du coup, c'était très court. C'était voilà. Non, moi, c'est Bruno Naon et le producteur de Ainsi soit-il que j'avais rencontré, que je connaissais. Mm-hmm. C'était une très bonne série sur Arte aussi, et qui me parle du projet d'Anne. Je trouvais que le pitch, comme on dit, le point de départ était formidable. Cette femme qui fait croire à sa famille qu'elle a un cancer parce qu'elle n'en peut plus, parce qu'elle est au bout du rouleau. Et j'ai adoré lire le scénario. Donc après, c'était évident, mais effectivement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Je pense qu'il y avait quelque chose de commun dans l'univers d'Anne et dans le mien. Et ça a tout de suite fonctionné.
Anne Berest, Fabrice Gobert, vous êtes donc les créateurs de cette série Mytho, série primée au festival Sérimania avec le prix du public et le prix d'interprétation pour Marina Hans. Mytho, c'est quoi Mytho? C'est ça.
Vous êtes débordé par vos enfants, et puis chez vous, votre travail, l'esclavage de la femme moderne.
T'as pas acheté les chips?
J'ai menti à Patrick.
Qu'est-ce que ça?
Une tumeur.
Cette alerte, c'est une chance. Et je suis là, t'inquiète pas.
Et je sais pas comment revenir en arrière.
Le mensonge, elle verra. C'est pas à la portée de monsieur et madame tout le monde.
Est-ce qu'on peut aussi voir en Mytho une série sur la charge mentale?
C'est quoi ça?
Oui, tout à fait.
L'illustration, là voilà.
Ce qui est curieux, c'est que quand j'ai commencé à écrire Mytho, ce concept de charge mentale n'était pas encore apparu dans le vocabulaire commun. Et puis tout d'un coup, quand on a commencé à en parler, je me suis dit, mais c'est exactement de ça dont je parle.
Alors du coup, autant enchaîner tout de suite. Est-ce que Mytho, c'est une série résolument féministe?
Alors,
il y a dissension.
Alors, oui et non, c'est-à-dire que pour moi, oui, évidemment, c'est une série très féministe. Et Fabrice, qui ne sait pas qu'il est naturellement féministe, qui pour lui, c'est tellement évident qu'il dit, je ne veux pas le revendiquer tel quel.
En fait, c'est
quel.
Plus que je trouve que les œuvres qui ont un message comme ça, ça réduit un tout petit peu la portée de ce que la série peut raconter. Mais au fond, ne serait-ce que parce que le personnage principal est une femme qui a une quarantaine d'années, qui est pas médecin, avocate, flic et tout ça,
oui, qui est pas une Wonder Woman.
C'est déjà tellement rare d'avoir une série qui est basée comme ça sur un personnage de ce type que oui, c'est déjà ça sort de nos habitudes et en ça elle est intéressante, mais surtout moi je trouve qu'elle est elle raconte des choses sur les relations entre les hommes et les femmes, entre les parents et les enfants, et voilà, plus on élargit, plus je trouve ça intéressant. C'est le principe des séries, surtout quand elle est chorale.
Mais bon, c'est féministe un peu quand même.
Anne Berest, cette femme qui se met à mentir pour échapper à sa, comment disiez-vous, charge mentale, c'est
oui,
ça, Charline?
Charge mentale.
Oui, c'est ça sent le vécu.
Oui. Alors, en fait, quand j'ai commencé à écrire la série, je dois dire que ma vie avait changé. J'avais eu un enfant, et puis un deuxième, et puis tout d'un coup, 4 beaux enfants. C'est-à-dire que ma vie ne ressemblait plus du tout très très vite à ce qu'elle était avant. Et je me suis rendu compte de ce que c'était qu'une mère de famille, avec tout ce que ça impliquait. Et puis aussi, voilà, il y avait eu ma mère qui avait eu un cancer du sein, et pendant toute sa maladie, je m'étais aussi rendu compte que quand la maladie rentre au sein d'une famille, elle change la tectonique des plaques familiales. Et que elle, qui était le pilier de la fin, un des piliers de la famille, tout d'un coup, c'était nous qui faisions attention à elle, qui était la femme plus fragile. Donc voilà, ça m'avait tellement interloqué que c'était le point de départ, ces deux choses-là.
Elvira est une héroïne un peu gauche qui va s'enferrer dans un mensonge que d'aucuns diront éhonté. À l'annonce de sa maladie, la réaction de son mari est « faut que j'encaisse ». Ses trois enfants ont d'autres préoccupations, faire nimpe, draguer son correspondant étranger et angoisser. Finalement, l'enfer, c'est pas les autres, c'est la famille, c'est à l'intérieur.
Oui, c'est pour ça qu'il faut mentir pour survivre, sinon on s'en sort pas.
C'est une image très particulière de la famille, pour le coup.
Mais je pense que la famille est d'abord le premier endroit du mensonge. Quand on est adolescent, on ment beaucoup à ses parents, on en a besoin pour se définir. Et puis c'est vrai que dans ce monde aujourd'hui où on doit être transparent au travail, transparent dans plein de choses, heureusement qu'il reste la famille pour mentir.
Oui, non, mais c'est une famille qui est ils sont tous un peu chargés, enfin ils sont tous un peu particuliers, mais c'est le principe des séries, c'est il faut que les personnages soient quand même définis, stylisés, mais au fond ils existent quoi, c'est ce qu'on voulait faire.
Oui, mais Fabrice, vous semblez partager avec Elvira cette idée selon laquelle le mensonge peut améliorer la vie. Vous avez 4 minutes.
pour mentir.
Pour m'expliquer.
Non, mais je crois qu'on ment tous. Mais ce que je trouve intéressant dans la série, c'est qu'évidemment, il n'y a pas que Elvira qui ment. D'ailleurs, je crois qu'elle ment parce que autour d'elle, déjà, ses enfants mentent.
Et son mari.
Et son mari, le premier, puisqu'il a une aventure. Mais ce qui est intéressant aussi, je trouve, dans la série, ce qu'on découvre au fur et à mesure, c'est que chacun se ment à soi. Enfin, tous les personnages se mentent à eux-mêmes. Effectivement, Patrick, le mari, est un photographe qui s'imagine très talentueux, ce qu'il n'est pas forcément. Sam fait croire à son correspondant allemand qu'il est une fille. Enfin bref, tous se mentent. Et je trouve ça assez intéressant cette idée que le mensonge, on est la première victime de son mensonge, de ses mensonges.
Mais est-ce qu'il est juste de dire que les messieurs sont quand même particulièrement veulent dans cette série. Anne, vous les avez pas gâtés, hein, les personnages masculins. Est-ce que Fabrice, vous êtes complice?
Ben, moi, j'ai pas l'impression qu'ils soient si terribles, les personnages masculins. Après, ils évoluent pendant. En plus, ils évoluent
évidemment,
pendant la série.
Mais au départ.
Oui, au départ, ils sont un peu chargés. Ils sont pas forcément très reluisants.
Hitchcock, il vaut mieux partir d'un cliché que d'y arriver.
Oui, mais c'est pas forcément des clichés. C'est juste que parfois, les hommes, effectivement, se comportent pas très bien.
Mais non, c'est vrai. C'est vrai que les personnages masculins n'ont pas forcément la part belle. Mais je trouve ça vraiment bien d'être à ce moment de l'histoire où on cherche à comprendre pourquoi les hommes
pauvres
sont mal représentés au sein de la fiction. Et je trouve que...
Parce que dans la série, ils parlent beaucoup des femmes, voilà. En général, quand ils parlent, effectivement, ils ne passent pas le code.
Bon, parlons d'un autre personnage féminin, la musique. Hein, la musique qui joue aussi un rôle très important dans la série. Elle a un sens. En ouverture du premier épisode, on entend ceci.
Il faut savoir encore sourire.
Il faut savoir d'Aznavour. Pourquoi ?
Alors ça, c'est très mystérieux. En fait, je pense que quand on a parlé avec Anne au début d'Elvira, Anne me disait « J'aimerais bien qu'Elvira écoute des chansons de variété française type Julien Clerc ». Et c'est vrai qu'au fond, dans les séries, notamment dans les séries françaises, on n'ose pas trop mettre de la chanson française ou de la variété française parce qu'on a peur que ça fasse immédiatement... ringard un peu, on essaye plutôt d'aller vers une musique style anglo-saxonne, américaine si possible. Quand on a réfléchi à l'introduction de la série, c'est-à-dire la première séquence, la séquence par laquelle on rentre dans l'univers de la série, on s'est dit qu'il fallait pas rater notre coup. Et on a imaginé, dans un domaine pavillonnaire, sans trop savoir où on est, entre chien et loup, avec quelque chose d'assez mystérieux, un peu ambiance Desperate Housewives ou David Lynch, il y a un meurtre, on sait pas trop. Et on s'est dit, moi, je me suis dit, ça va faire trop américain. Il faut pondérer ça. Mmh. Il faut créer un contre...
Un tropisme français.
Ouais. Et je me suis dit, mais pourquoi pas un truc lyrique, un truc de variété française, de chanson française. Et cette chanson, il faut savoir que j'adore, est venue là. Et on l'a mise sur le tournage. Quand on a tourné vraiment cette scène, on avait une petite enceinte et on écoutait cette chanson pour voir si ça fonctionnait avec le rythme. Et ça fonctionnait très bien. Et c'est un peu l'univers de la série. On est entre différentes cultures, entre différents genres. Voilà. C'était ça l'idée.
Anne, pour conclure, c'est à la scénariste que je m'adresse. Hein, si l'on veut tirer une morale de cette histoire de mensonge, est-ce plutôt que dès qu'on se déclare malade, tout le monde s'intéresse brusquement à vous? Ou bien qu'on ne connaît jamais ceux dont on partage la vie, ou bien les deux.
Les deux. Et je dirais que la deuxième proposition est un des fils rouges de la saison 2 qu'on est en train de devenir. Au fond, on ne connaît pas la personne avec qui l'on vit.
Voilà. Alors, du mystère du en perspective. Oui, c'est du teasing où je ne m'y entends pas. Bien, Fabrice Gobert, Anne Berest, merci d'être venu parler de Mytho. Mytho qui est diffusé sur Arte TV avec les trois derniers épisodes jeudi soir, c'est ça?
Tout à fait, jeudi soir. Déjà disponible sur Arte.
Voilà. Mais ne bougez pas, nous sommes ensemble jusqu'à 17h. Vous savez faire plein de choses. Est-ce que vous savez faire ça?
Ah merde.
Non.
J'ai entendu.
Non, je sais pas. Le faire, je sais pas le faire.
Vous n'avez même pas essayé.
Ben non, parce que ça va être ridicule. Bah oui,
c'est pour ça que c'est bon.
Ben, je suis désolé. Non.
Anne. Voilà. Bravo.
Parfait. C'est pour ça qu'on est complémentaires.
Mais oui, bien. De toute façon, c'était pour lancer les pop news.
Maintenant où Jamel le retour, Jamel Debbouze est de nouveau sur les routes avant une longue pause de scène annoncée. Il faut donc en profiter, mais pas n'importe comment, sous peine d'avoir le seum. Oui, ce qu'a encore pu constater un petit malin assis dans le public d'une de ses dates en Belgique et qui a essayé de le chambrer.
Il a dit j'ai quoi? J'ai pas de diplôme. Ah, j'ai pas de diplôme. Oh, c'est que ça. Pas besoin de diplôme, c'est toi qui paye pour venir me voir.
Jamel à voir sur scène le 19 octobre au Zénith de Caen, le 26 au Liberté à Rennes ou encore le 24 novembre au Zénith de Strasbourg.
Une conséquence étrange et inattendue au succès du Joker de Todd Phillips. Pornhub, le site de streaming de cinéma d'auteur avec des stouquettes dedans, a observé dans les 4 jours qui ont suivi la sortie du film 741 000 recherches contenant le mot Joker. Les clowns n'attirent définitivement pas que le jeune public.
Et il n'y a pas que Bruce Springsteen dans la vie, non, il y a Harry Styles aussi. Le beau Brit, ex One Direction et acteur à ses heures perdues, oui ça va, s'apprête à sortir son deuxième album solo, annoncé par un premier single, calmez-vous, intitulé Lights Up.
Ça y est?
Bah non, normalement il y avait l'extrait, voilà. Un titre accompagné d'une vidéo dans laquelle Harry Styles est souvent mouillé et très peu vêtu. L'album a été enregistré en 6 semaines au Shangri-La Studio de Rick Rubin. Non, pas là, c'est parce que vous ne l'avez pas vu. L'homme derrière le son des Red Hot Chili Peppers, de Johnny Cash ou encore de Public Enemy, on attend désormais une date de sortie. Ouais, c'est bon, ça va, ça suffit.
France Inter. Popopo. Antoine de Caunes.
Garci mort.
Mais non, le Joker.
Ah ouais.
Joaquin Phoenix. Ouais. Merci Charline. Non. Fabrice Gobert, Anne Berest, vous restez avec nous. On va continuer à parler de Mytho dans la suite de Pop 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 avec notre chroniqueur Renan Crou. Mais avant ça, on écoute un morceau qui signe le grand retour après 40 ans de silence de l'immense Harry Nilsson, compagnon de route de John Lennon ou de Randy Newman, pour ne citer que. C'est un événement littéralement le très justement nommé Lost and Found.
Right next to his monument. How can he take the problems from the innocent? One for the indigent standing on the pavement. She was robbed from heaven's gate down to the middle of a marketplace. This is what I saw. What's your name and who did you vote for? Where did you come from? Did you come from market or a heavenly place? God must have loved your face. This is what I saw. Yeah.
lost and found by each other, what a miracle. Cut to Roman thinking about his lifespan. Two for the seesaw, what's your name and who did you vote for? Where did you come from? Did you come from Market or the heavenly place? Oh yeah. God must admit it.
Lost and found, what a miracle. Lost and found, what a joy.
Grand retour d'Harry Nilsson avec ce morceau Lost and Found. Vous écoutez Pop Pop Pop, l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon... Nous sommes toujours en compagnie d'Anne Berest et de Fabrice Gobert, venus nous parler de Mytho, la série d'Arte. Et voici que nous rejoint Ronan Crowe. Bonjour Ronan.
Oh, c'est sage. Aujourd'hui, vous êtes très sage quand vous me voyez arriver, Antoine.
Attendez, on parle de Mytho, mais qu'est-ce qui me prouve que c'est bien vous que vous n'êtes pas, par exemple, en train de prendre le thé avec madame votre mère, comme tous les jours à cette heure-ci?
Elle vous embrasse, elle vous écoute, évidemment.
Ben. Bonjour Evelyne.
Voilà, voilà quelqu'un de poli.
Elle nous écoute.
Oui, sûrement.
C'est facile à vérifier. Tiens, on va l'appeler pour avoir le cœur net.
Mais vous n'avez pas le numéro.
Si, si, on l'a.
Ok.
On l'appelle, s'il vous plaît.
Ah, oui.
Ah, vous avez de la chance, c'est occupé. Ouais, bien sûr. Enfin, évidemment, elle décroche à chaque fois que vous êtes à l'antenne.
Évidemment, bon. Évidemment.
Alors, allez-y.
Bon, bonjour, c'est normal, hein, rien ne vous inquiétez pas, ils appellent ma mère. C'est une fascination limite érotique. Vous parlez depuis tout à l'heure de mensonge et il manque quelque chose. Personne n'a dit que le mensonge, c'est mal. Hein, ça vous dérange pas, vous faites une émission,
non.
Mentir,
non.
C'est bien.
Pourquoi c'est mal?
Bah oui, mentir, c'est mal, mais en même temps, c'est ce qui maintient la société. Vous allez voir une preuve dans quelques instants. Antoine, qu'est-ce que vous pensez de ma nouvelle coupe de cheveux?
J'adore.
Voilà, très bien, vous voyez, ça marche. Et les auditeurs de franceinter.fr peuvent en témoigner. Et en fait, le mensonge dans la pop culture...
Mais surtout que vous avez économisé 15 euros.
Bon, s'il vous plaît, Antoine de Cône. Sauf que le mensonge dans la pop culture questionne justement la morale. Est-ce que mentir, c'est moral? Est-ce que mentir, finalement, c'est pas un acte moral qui permet de faire fonctionner la société? Et c'est ce que raconte aussi quelque part votre série Mytho, c'est-à-dire que votre personnage, elle ment pour rétablir un ordre, pour changer finalement quelque chose qui ne fonctionne plus dans sa famille. Mais ça, en fait, ça vient de quelqu'un d'un peu plus ancien que vous, qui s'appelle Georges Feydeau, et qui avait inventé aussi cette idée du vaudeville et du mensonge. Alors évidemment, je vous emmène au théâtre.
C'est le théâtre, ça.
Oui, c'est le théâtre, c'est Ghislain qui fait les coups à la main. Et oui, parce que en ce moment, Feydeau est partout. Peut-être parce qu'on ment beaucoup et qu'on a besoin justement de questionner les rapports de la société et même un peu nos couples. Feydeau est au cinéma, au théâtre, dans une version notamment. Alors, vous avez La Dame de chez Maxim's, évidemment, dont vous avez déjà parlé dans cette émission. Mais il y a aussi une pièce qui cartonne en ce moment et qui est un chef-d'œuvre, La Puce à l'oreille, jouée à la Comédie Française. C'est un immense spectacle, c'est mis en scène par Lilo Bor. Et on y découvre quoi? On y découvre la mécanique Feydeau. Tout à l'heure, vous parliez d'horlogerie. C'est exactement ça. Feydeau, c'est une inspiration pour Mytho ou pas du tout? Le vaudeville?
J'y ai pas du tout pensé en écrivant, mais en revanche, Feydeau, Guitry, pour moi, ce sont des, oui, vous dites des horlogers, évidemment, c'est des maîtres dans l'écriture.
C'est-à-dire que le point commun entre les deux, c'est qu'il y a une logique. C'est qu'on se retrouve prisonnier de ses propres pièges, que ce soit dans le registre vaudevillesque ou dans le registre plus dramatique de Mytho.
Exactement. Et c'est surtout des moralistes. C'est-à-dire que derrière ce geste du mensonge, questionne finalement la morale des personnages et les mœurs des personnages. Cette puce à l'oreille raconte l'histoire d'une femme, Madame Chantebise, qui est persuadée que son mari la trompe. Elle est persuadée, elle en est même paranoïaque. Alors elle décide de lui établir un gros mensonge et donc de lui écrire une lettre d'amour. En tout cas, elle demande à sa meilleure amie de lui écrire une lettre d'amour. Et de ce mensonge-là va débarquer une sorte de bordel gigantesque mis en scène avec absolument du génie sur la Comédie Française par Lilo Bor. Pourquoi? Parce que c'est burlesque, c'est drôle. En fait, et Feydeau, quand c'est bien mis en scène, c'est extrêmement drôle et c'est extrêmement moderne. On imagine Feydeau, des cocottes, des gens en costume. En fait, Feydeau, c'est
quoi? Vous ici?
Voilà, ah, bah, ça non, en fait. La pièce date de 19 1907, il suffit juste de la recaler un peu dans une époque incertaine, un peu les années 60, pour que tout d'un coup, ça parle à tout le monde. Parce qu'en fait, Fedot, il nous raconte quoi? Que quand tout d'un coup, on se met à mentir, on tord la réalité. Mmh. Et que quand on tord la réalité, on la contrôle plus. Et c'est ce que met en scène cette puce à l'oreille, c'est que ça dérègle partout. Vous avez donc, par exemple, l'incroyable Jérémy Lopez, qui joue une espèce d'hidalgo complètement dingue, qui casse des portes à coups de high kick. C'est extrêmement drôle. Sébastien Poudroux, en berlificoté dans son désir, qui se retrouve avec plusieurs femmes qui lui courent après. Tout d'un coup, mentir, c'est transformer la réalité. Alors vous allez me dire, Antoine, je vous connais, oui, mais Renan, votre puce à l'oreille, c'est parisien, c'est la Comédie Française. Ne
oui,
parlez
mais
pas
Renan,
comme ça.
Attendez, votre puce à l'oreille, c'est parisien quand même, c'est la Comédie Française.
Engagez-le, c'est un acteur incroyable. On le savait déjà. Eh bien non, en fait, parce que cette puce à l'oreille à la Comédie Française sera au cinéma, dans les cinémas pâtés, le 17 octobre.
Voilà,
donc vous
nouvelle.
Pouvez aller le voir partout en France. Et c'est vraiment un incroyable spectacle, un moment de théâtre et de cinéma en même temps.
Oui, c'est ça, c'est une mise en scène très cinématographique.
Très Blake Edwardienne. C'est-à-dire qu'on pense beaucoup à Blake Edwards et à son sens du burlesque et du dérèglement, qui lui aussi avait joué du vaudeville dans ses films. Mais je suis pas venu qu'avec un conseil théâtral. Nous basculons du théâtre, parce que je suis un homme comme ça, au jeu vidéo, parce que le jeu vidéo aussi...
Mais quelle souplesse.
C'est très incroyable. Très connu. Le jeu vidéo s'intéresse aussi au vaudeville 2.0. C'est un jeu qui s'appelle Telling Lies, qui est disponible sur PC et sur iPhone, qui est vraiment un événement. C'est signé Sam Barlow, c'est un des créateurs de jeux vidéo les plus intéressants aujourd'hui. Et de quoi ça parle, Telling Lies? Eh bien, vous jouez une enquêtrice, vous avez un ordinateur devant vous et vous faites actionner, vous marchez avec la NSA. C'est-à-dire que vous pouvez chercher comme ça des choses intimes des gens. Et vous cherchez des vidéos dans la vie intime des gens. Et donc, vous tapez
c'est
un premier
génial.
Mot, il y a écrit « amour ». Et tout d'un coup, vous voyez trois vidéos apparaître. Et vous les regardez, vous voyez un type, une femme, des gens qui parlent. Et puis petit à petit, vous vous mettez à enquêter, à chercher. Et vous vous rendez compte que le personnage que vous avez vu a un autre nom dans une autre vie. Et c'est à vous de remonter le fil de l'enquête à travers ce Telling Lies, de faire apparaître le vaudeville, si vous voulez, mais un vaudeville un peu tragique cette fois-ci. C'est fabuleux. Vraiment, ça s'appelle Telling Lies, c'est une expérience vidéoludique. Alors je suis désolé de vous dire ça, mais le jeu vidéo est en train de prendre le pas sur la série. Alors dépêchez-vous de faire des séries, parce que là, c'est une expérience à la fois de jeu vidéo et de série. C'est passionnant, c'est du vaudeville 2.0. Bref, c'est bien de mentir avec la pop culture.
Et bravo pour cette thématique mensonge que vous avez tenue haut la main jusqu'au bout.
Oh, c'est bien gentil, mon cher Antoine.
Madame, votre mère en sera fière.
Madame, ma mère vous embrasse.
Oui, et elle peut raccrocher maintenant son téléphone, car votre chronique est terminée. Ronan, merci infiniment, Ronan. On approche de la fin de l'émission et c'est l'heure pour moi d'aller chercher le dernier vinyle. Je vais d'ailleurs vous jouer un petit Aznavour, comme je sais que ça plaît à Anne Berest et Fabrice Gobert. Alors, j'ai toujours pas trouvé la trappe pour descendre. En revanche, j'ai un ascenseur. Mais vous êtes qui, vous?
Bah, je suis vous.
Vous? Vous êtes moi?
Oui, moi, je suis vous.
Bah, c'est-à-dire moi?
Antoine de Caunes.
Mais c'est pas possible, il peut pas y avoir deux de Caunes.
Bah, si, la preuve, deux Caunes.
Ah, oui, mais alors ça en fait un de trop. Bon, écoutez, on va pas passer la journée là-dessus, vous dégagez.
Qui ça? Moi?
Bah oui, vous. Allez.
Sous les décombres de ce monde qui nous ressemble et que le temps a dévasté. Désormais, ma voix ne dira plus je t'aime. Désormais, moi qui voulais être ton serai l'ombre de moi-même, ma main de ta main séparée. Jamais plus nous ne mordrons aux mêmes fruits, ne dormirons aux mêmes lits, ne referons les mêmes gestes. Désormais, désormais, les gens nous verront l'un sans l'autre. Désormais, nous changerons nos habitudes. Et ces mots que je croyais nôtres, tu les diras dans d'autres bras. Désormais, désormais
choses qui parleront toujours de toi. Jamais plus nous ne mordrons aux mêmes fruits, ne dormirons aux mêmes lits, ne referons les mêmes gestes.
Désormais, dans Pop 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 sur France Inter, c'est un morceau de 1963, signé bien évidemment Charles Aznavour, qu'on retrouve bien sûr dans Chambre 212 de Christophe Honoré, comme on entend aussi Charles Aznavour dans Mytho, la série d'Arte de Anne Berest et Fabrice Gobert, qui étaient nos invités d'aujourd'hui. Il est 19h56, c'est l'heure de... Il est 16h, pardon, 56. L'heure de réécouter le meilleur ou le pire moment de cette émission. Est-ce que vous êtes prêts tous?
Oui.
Oui, 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 c'est le moment magique. Édition qui a pour titre Brel, la suite. C'est belge. C'est tout ce qu'on garde.
D'accord. Bon,
voilà, c'est un moment gênant.
C'est un moment gênant. Oui, on va rebaptiser ça.
C'était magique.
Gênant. Bien, merci à vous tous. Merci Anne Berest.
Merci à vous.
Fabrice Gobert, Mytho, votre excellente série est à voir sur Arte TV. Et les trois derniers épisodes seront diffusés ce jeudi à 20h55 sur Arte donc. Merci à l'équipe de Pop Pop Pop, Ghislain Fontanus à la réalisation, à la technique Alexandre Chenet, Aurélien Esvan, notre rédacteur en chef, Claire-Sophie Collet, Simon Restat, nos attachés de production, la programmation musicale Djoubaka et Raphaël Harry, notre stagiaire. Demain dans Pop Pop Pop, une spéciale mode et mauvais goût avec Olivier Saillard et son bouquin de la mode et Nicolas Détienne d'Ovre et son encyclopédie du mauvais goût. Mais avant demain, si vous avez aimé l'émission, retrouvez-la sur franceinter.fr. Si vous êtes un Jones 3.0, un Yeuv ou une Yeuvesse à la pointe, suivez-nous. Ou plutôt, comme disent ceux qui font des tutos mytho sur YouTube, abonnez-vous à notre podcast pour réécouter l'émission du jour avec Beyoncé et Jay-Z.
Toujours pas.
Et suivez-nous sur les internets, comme disent les millennials, 3615 pop 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 sur Instagram et Twitter.